Salut à tout le peuple vert! La mythe en verte n'a pas eu d'offre au Mercato. Tous les lundis à 20h, je vous retrouve pour débriefer toute l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Ligue 1, Europa League, Coupe Nationale, Mercato, polémique, il y en aura pour tous les goûts. La mythe en verte, c'est le seul talk show 100% ASS qui exclut totalement la langue de bois. Et c'est tous les lundis à 20h sur RVR.
Johnny Rep enfile son maillot vert.
Bonsoir à tout le peuple vert. À force de plafonner, les verts perdent de vue leurs objectifs principaux. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pu faire mieux que match nul samedi à Angers au stade Jean-Bouin, 0-0. Ce résultat les éloigne-t-il définitivement du podium? Nous nous poserons la question en ouverture de cette émission. Avant d'étudier le cas Néal Maupay, l'ancien niçois a montré de bonnes choses à Angers. Est-il finalement plus utile que Söderlund? On peut se poser la question, mais il n'y a pas que le Norvégien dans l'œil du cyclone en ce moment, puisque Florentin Pogba ne s'est pas vraiment montré à son avantage, c'est le moins qu'on puisse dire, mercredi en Coupe de France. Ses nombreuses erreurs ont conditionné le quart de finale contre le Paris Saint-Germain mercredi dernier. 3 buts à 1, défaite des Verts. Pogba est-il un chat noir pour l'AS Saint-Etienne? Le président de l'AS Villers chargé du sportif, Sylvain Poyet, a peut-être la réponse. Il est avec nous dans le studio du Deux Boulevard, Edgar Quinet. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous les auditeurs.
Et bonsoir à tous ceux de l'AS Villers, bien sûr. Nous reviendrons sur la situation du club dans l'Expresso au milieu de l'émission, mais ce sera juste avant d'évoquer le cas Assou et Koto et les quotas, encore une fois, dans l'actu Ligue 1. Mais d'abord, on file au stade Jean-Bouin à Angers.
La radio est pour ensemble.
Pour sa première à Jean-Bouin depuis 2003 et un match nul, un but partout avec notamment un but de Fabrice Jo, l'AS Saint-Etienne n'a pu faire mieux que match nul face à l'étonnant promu Angevin, 0-0. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas eu une partie facile. Cette équipe, Angevine, met beaucoup de coups. Sylvain, elle est dure à jouer.
Oui, c'est un promu et ils ont démarré en trombe la saison. Et bien sûr, on a 10 journées de la fin, ils sont encore en course pour l'Europe, même si ce n'est pas leur objectif principal. Et bien évidemment, c'était un déplacement très périlleux pour les Saint-Etienne, surtout avec une série de 11 matchs de suite, je crois. Et donc, c'était vraiment difficile. Et un point ramené de Jean-Bouin, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise opération pour la SSE.
Est-ce que les Verts ont manqué de caractère sur ce match?
Ils ont manqué de précision, un peu comme depuis plusieurs matchs. Quand on voit les actions de Neal Maupay et Monet Paquet, on a l'impression qu'il manque pas grand-chose pour ramener des points positifs.
Comme souvent.
Comme souvent, oui. Et malheureusement, la victoire n'est pas au bout. Mais c'est vrai que cette équipe d'Angers, qui n'a peut-être pas été trop dangereuse, à part un corner ou deux, n'a pas trop mis en difficulté la Saint-Etienne. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être qu'il y a un an ou deux ans, des matchs comme ça, on les perdait. Là, on ne les gagne pas, mais au moins, on ramène un point et la course à l'Europe n'est pas terminée.
Angers reste au contact des Verts au classement. Pourtant, ils n'ont plus gagné depuis le 30 janvier. C'était contre Monaco, une victoire étonnante, 3-0. Ce qui prouve quand même qu'Angers reste une équipe dangereuse dans ce championnat. Comment expliquez-vous que l'ASS n'ait pas réussi à se montrer plus efficace? Pourtant, il y a eu les occasions, on les a vues.
Oui, c'est un manque de réussite quand on voit le petit Neal Maupay qui était titulaire à la place de Söderlund qui a eu une belle action. Et justement, on en reparlera plus tard de Neal Maupay, mais s'il jouait un petit peu plus souvent, est-ce que ce ballon, il ne l'aurait pas mis au fond? Est-ce qu'il est en manque de confiance? Peut-être, mais c'est vraiment dommage et il manque pas grand-chose à l'SSE pour l'instant pour gravir, à monter à cette troisième place, même si l'objectif de la troisième place n'est peut-être pas le meilleur à atteindre. On en reparlera plus tard.
Oui,
mais
c'est sûr.
Mais c'est dommage parce qu'il manque vraiment pas grand-chose à cette équipe pour avoir beaucoup de points en plus.
Alors Christophe Galtier corrobore un petit peu vos propos, comme quoi ce résultat nul à Angers n'est pas forcément un mauvais résultat. Il tend à relativiser la portée de ce match nul, quand bien même il est décevant. On va l'écouter. Christophe Galtier.
Voilà, ce point, il faut le prendre, il faut aussi l'apprécier. On vient de finir notre 11e match en 35 jours. On avait des joueurs absents, on avait des joueurs qui ont déclaré forfait dans la journée, des joueurs qui n'ont pas pu participer au match en étant sur le banc, en étant malade. Et tant bien que mal, voilà, on est arrivé à prendre ce point de match nul qui permet de maintenir à distance l'adversaire du soir. Permet de nous laisser toujours au contact des équipes qui jouent l'Europe. Il faut marquer des buts pour gagner. Et ce soir, voilà, il manquait dans le secteur offensif des joueurs importants. Moussa Matanan, Jean-Christophe Baïbec, Romain Mouma, Nolan Roux qui a déclaré forfait, Renaud Coat a joué avec une grosse gêne sur un plan musculaire. Et que malgré ça, on a quand même ces deux occasions et ces coups de pied arrêtés qui peuvent être des situations très favorables, et on n'y est pas arrivé. Mais peut-être que ça s'est présenté au moment où il ne fallait pas que ça se présente, ou du moins on n'a pas su saisir l'opportunité. Et j'ose espérer que ça se présentera dans les... ça se représentera quand on aura plus de fraîcheur et que j'aurai l'effectif quasiment au complet, notamment sur un plan offensif. Oui, mais les autres aussi vont devoir faire plus. Tout le monde va devoir faire plus.
Tout le monde va devoir faire plus. C'est Christophe Galtier qui le dit, c'est pas nous. Hein. Donc, quelque part, ça montre bien quand même que pour aller titiller les équipes de tête, notamment l'Olympique Lyonnais qui est en pleine forme actuellement, va falloir montrer autre chose.
Oui, mais comme le dit Christophe Galtier, au niveau de l'attaque, Romain Mouma est blessé depuis presque un mois et demi.
Et Oussama Tanane était en deuil.
Oussama Tanane n'était pas là. Kevin Molnay-Paquet, il fait beaucoup de matchs en ce moment. Nolan Roux était forfait, peut-être malade juste avant le match. Il y a plein de choses qui fait que en fait on n'arrive jamais à mettre une attaque en place depuis maintenant longtemps. Et voilà, elle a donné sa chance à Neil Mopé qui n'était pas en réussite. Söderlund, il n'est plus trop en réussite en ce moment.
Et il y a Beric qui n'est toujours pas là.
Et Beric, non, bien sûr, et qui pourra peut-être jouer la fin de saison, mais en espérant que les objectifs seront déjà atteints pour éviter qu'il ne joue, qu'il aggrave encore une fois sa blessure.
Et concrètement, enfin mathématiquement en tout cas, la Saint-Etienne peut encore viser le podium, mais est-ce qu'ils peuvent encore y croire?
Oui, en début de championnat, on nous aurait dit qu'à la 29e journée, on aurait été à 3 points de la 3e place. Tous les supporters de Saint-Etienne auraient signé, bien évidemment. Le plus important, tout d'abord, c'est de stopper cette mauvaise série, qu'on a pris 3 points sur les 4 derniers matchs. Mais le vrai objectif raisonnable, pour moi, ce serait la 4e place. On n'est pas armé pour jouer la Ligue des Champions. Quand on voit nos voisins de l'Olympique Lyonnais qui n'ont gagné qu'un petit match à Valence lors de la Ligue des Champions de cette année, si c'est pour faire la figuration, autant pas y aller. Et nous on n'est pas prêts. Lyon n'est pas prêt. Nous, on n'est pas prêts.
Surtout qu'une 3e place, c'est un cadeau empoisonné puisqu'il y a 2 tours à passer.
Exactement. Ouais, le tour préliminaire que Lyon n'a pas passé il y a 2 ans. Donc, c'est pour ça. Autant se concentrer à jouer l'Europe, l'Europa League. Il y a 3 ans, on avait raté la marche. Il y a 2 ans, on n'est pas sorti des poules. Cette année, on sort des poules, on va jusqu'à Bâle où on méritait peut-être d'aller un petit peu plus loin. Et donc l'année prochaine, essayer de monter encore un palier. Mais la Ligue des Champions, personnellement, je trouve que c'est encore trop tôt.
C'est dans ce genre de match que l'on peut voir un leader émerger du collectif. Et samedi, c'est Stéphane Ruffier qui s'est montré décisif. Enfin, un arrêt, 3 parades, il semble un petit peu mieux quand même depuis quelques temps, Stéphane Ruffier. Il était notamment on fire, l'ancien monégasque, sur le coup franc de Billy Kedkeo Fomfen à la 16e minute. N'est-ce pas inquiétant quand même de voir le gardien stéphanois briller dans un match pareil?
Tous les gardiens à ce niveau du championnat, les 5 premières places, ce sont tous des super gardiens. Quand on voit Paris, Lyon ou même Marseille, Steve Mandanda qui sont un peu plus loin... quand on voit les équipes qui sont en tête à la fin du championnat, ils ont tous des très bons gardiens. Alors bien sûr, Stéphane Ruffier, il est important, il nous fait marquer des points toute l'année. Après, bien sûr qu'on aimerait le voir moins sollicité possible, mais voilà, à mon avis, ça, depuis qu'il a refusé la 3e place en équipe de France, il est en train de revenir. Alors bien sûr, c'est pas lui qui va arrêter tous les ballons à tous les matchs, bien sûr, mais ça va le remettre en confiance de ne pas avoir pris de but à Angers. Même s'il y a eu 2-3 actions délicates. Mais voilà, de toute façon, Stéphane, il est dans un bon club en plus. Je pense qu'il est ravi d'être à Saint-Etienne. Non, c'est normal qu'un gardien fasse des grands arrêts. De toute façon, on ne peut pas gagner tous les matchs non plus. Et donc, c'est pas le souci qu'on parle trop de Stéphane Ruffier.
Et sur cette action de la 16e minute, on voit quand même que la défense stéphanoise n'est pas sereine. Franck Tabanou est assez facilement battu. Il y a Ruffier qui dégage le ballon, ensuite il y a une barre transversale, ensuite Ruffier doit encore s'employer. C'était un peu la panique générale.
Oui, il essayait de la mettre en corner et du coup elle rebondit sur la barre transversale et il lui faut encore faire un arrêt. Mais après, c'est quasi la plus grosse action chaude du match pour Angers. Mais après, si on voit tous les arrêts qu'il fait tous les matchs, non, on ne peut pas lui en vouloir, pas du tout.
C'était un match très engagé, on en a parlé tout à l'heure, où pour une fois, le milieu stéphanois s'est montré à la hauteur, on peut le dire. Jérémy Clément a touché près de 90 ballons et surtout, il n'en a perdu que 12. 93% de passes réussies, c'est une stat qu'on n'avait plus vue chez Jérémy Clément depuis un petit moment. Est-il redevenu un patron au milieu de terrain ?
Jérémy, il a beaucoup d'expérience. Il avait peut-être besoin de souffler un match ou deux depuis Bâle, parce qu'il n'a pas dû jouer le dernier match face à Caen, il me semble.
Non. Donc, c'était Selnaes qui était titulaire.
Il avait besoin de souffler, surtout qu'il avait, je crois, joué à Bâle et après Paris juste derrière. Et donc, non, Jérémy, c'est un cadre important. Et justement, la série de matchs qui arrive, les 9 derniers matchs pour atteindre l'objectif de l'Europe. C'est important d'avoir des joueurs comme Clément qui ont du vécu et c'est grâce peut-être à des joueurs comme Clément, Ruffier, Perrin et Amouma, qui j'espère reviendront bientôt, qui ont un peu l'expérience de ces dernières années sur l'Europe, qui vont pouvoir atteindre l'objectif du podium ou de la quatrième place.
Alors, on parlait de Romain Amouma à l'instant avec Sylvain Poyet, mais aucun joueur créatif sur ce match ne s'est distingué. Oussama Tanane était en deuil, Romain Amouma, vous en parliez, était absent. Ça s'est vu d'ailleurs qu'ils n'étaient pas là les deux, puisque ça a manqué de fluidité, d'explosivité. Christophe Galtier l'a d'ailleurs pointé du doigt en conférence de presse. Est-ce qu'il doit revoir son système tactique, l'entraîneur stéphanois ?
Bon, après, je ne suis pas assez connaisseur pour me mettre à la place de Christophe Galtier sur le nouveau tactique. Après, bien sûr... Il y a autant de coachs comme Galtier que de supporters des Verts, donc chacun voudrait mettre une équipe différente. Après, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il manque un 10, et c'est vrai qu'il est un petit peu juste, il a raté pas mal de matchs. Peut-être est-ce qu'il se met trop de pression par rapport au club et peut-être au discours du coach ? Mais c'est vrai qu'il manque un créateur, quelqu'un qui est capable de faire, au moment où on l'attend pas, la dernière passe ou marquer le dernier but.
Est-ce que ce créateur, la saison prochaine, ça peut être Sofiane Boufal, par exemple ?
Oui, ou pourquoi pas.
On se projette. Hein.
Ou pourquoi pas un Ben Yedder de Toulouse ? Ce serait des bons joueurs, mais voilà, c'est difficile. Qui sera le coach l'année prochaine ? On ne sait pas encore. Est-ce que Christophe Galtier sera encore l'entraîneur des Verts ?
En tout cas, je parlais de Sofiane Boufal parce que c'est le conseil de Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club. Il n'a pas manqué de fustiger le niveau offensif affligeant des deux équipes, Angers et Saint-Etienne. Il n'y avait rien, que des duels, a-t-il pesté. Puis il s'est improvisé conseiller en recrutement, suggérant à David Ventier, Christophe Galtier et Dominique Rocheteau de lorgner sur le Lillois Sofiane Boufal. Donc c'est le chaînon manquant de la SS, à en croire Pierre Ménès.
Oui, si Pierre Ménès s'y connaissait au foot, on y serait depuis longtemps.
Ça c'est fait.
Mais oui, pourquoi pas Sofiane Boufal, c'est un bon joueur. Après, il y en a plein d'autres bons joueurs. Après, tout dépend des finances du club et puis aussi du schéma tactique qu'ils veulent mettre en place et pour réussir à franchir le palier qu'on n'arrive pas à franchir depuis 2-3 ans.
Et derrière, en revanche, il y a eu un peu de mieux dans ce match. Parce que Pogba était remplaçant, il a été ménagé. Et du coup, c'est Théophile Catherine qui a été replacé dans l'axe puisque c'est Ronel Pierre-Gabriel qui a pris le couloir droit. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé pour le petit jeune. Et si le coup franc de Kadkeo a semé la panique dans la défense stéphanoise, on peut constater que la présence de Théophile Catherine dans l'axe a plutôt rassuré tout le monde.
Oui, on sait qu'il peut jouer défenseur central. On l'avait senti beaucoup émoussé contre Caen, suite au match de Coupe d'Europe, sur le côté. D'ailleurs, la plupart des supporters n'avaient pas trop compris pourquoi il avait été aligné, alors qu'il y a des Malcuit ou Pierre Gabriel qui demandent qu'à jouer. Et c'est vrai qu'en défenseur central, même si, bien sûr, on aurait préféré que Loïc Perrin garde sa place, il fait du bien.
Et c'est justement le remplaçant idéal de Loïc Perrin
Par rapport à Pogba, oui, il n'y a pas photo.
Et pendant que la défense respire un petit peu, l'attaque se morfond en l'absence de ses tauliers, Tanane, Amouma. Et pendant ce temps, un petit jeune est en train de s'affirmer. Il aurait bien pu révolutionner les débats ce week-end. Il s'appelle Néal Mopé, on va en parler tout de suite. Il est 20h15. Contraint de faire tourner, Christophe Galtier avait choisi d'aligner le jeune Néal Mopé, 19 ans. L'ancien niçois n'est pas un inconnu au bataillon de la Ligue 1, on sait que c'est un battant. Il lui manque juste un petit peu l'efficacité. Hier, il a connu un peu de déchets, mais il a énormément tenté sa chance. 4 tirs, malheureusement pour lui, aucun n'a été cadré. Au moins, il a le mérite de se montrer, c'est pas comme un certain Norvégien.
Oui, oh, il faut pas trop sur le Norvégien, il faut pas trop lui casser du bois dessus. Et il faut pas oublier qu'il nous fait gagner le derby,
oui,
qui est quasi le match le plus important à Geoffroy Guichard de l'année. Et on lui aurait tous fait une statue ce soir-là, en pensant bien sûr à Berić. Mais si on compare le petit Mopé à Söderlund, ils ont deux profils différents. C'est dur de les comparer. Söderlund, lui, a plus le style au Slovène Berić. Et Mopé, lui, est plus fin, à mon avis, plus rapide, plus malin, mais il est très jeune, il ne faut pas oublier qu'il a que 19 ans, il ne faut pas trop lui en demander non plus, mais par contre, Galtier, à mon avis, devrait lui donner bien, beaucoup plus de chances de jouer. Par exemple, il aurait mérité de jouer le quart final contre Paris, vu que c'est lui qui nous a qualifiés deux fois, on l'étape et puis à 3, voilà. Donc, c'est dommage qu'il ne fasse pas plus jouer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut le protéger d'un côté ? Mais c'est un bon joueur. Il n'a que 19 ans, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'il n'est pas en réussite, mais s'il jouait plus, je pense qu'il pourrait marquer beaucoup plus de buts.
Galtier doit donc lui faire davantage confiance.
Bah oui, peut-être pas titulaire comme il l'a été samedi, mais au moins faire des bouts de match, 20 minutes, 30 minutes, ou même le dernier quart d'heure, une fois que le Norvégien a bien fatigué les défenseurs centraux, lui peut se faufiler et pourquoi pas marquer des buts importants.
Il a manqué de trouver la faille à l'heure de jeu en réceptionnant un centre de Valentin Estrich et sa volée face au but fuit de justesse, mais alors d'extrême justesse le cadre de Letellier. Pouvait-il mieux faire sur cette action ?
Oui, bien sûr, mais comme je dis, s'il jouait plus souvent...
Je vois votre désarroi sur la question.
Ouais, parce que le but était c'est quasi plus facile de la mettre dedans que. Mais si le ballon fuse un petit peu, et puis voilà, c'est une question de confiance. S'il jouait beaucoup plus de minutes, peut-être qu'il l'aurait mis au fond. Voilà tout, mais il a eu des actions, et puis je suis sûr qu'en fin de saison, quand Romain reviendra, Mouma, et Neil, en espérant qu'il ait un peu plus de temps de jeu, et que Söderlund se refasse une santé, l'attaque stéphanoise. Peut marquer beaucoup de buts.
Dans les colonnes du Progrès, l'ancien Aiglon a voulu dédramatiser la situation comptable de son équipe, un petit peu à l'image de Christophe Galtier d'ailleurs. On sait qu'on doit mieux faire. Il suffit d'un déclic pour très bien finir la saison. Mais de quel genre de déclic parle le franco-argentin ? Parce que c'est facile de parler de déclic, mais quel déclic ?
Le déclic de marquer des buts, tout simplement. Hein. On sait que les buteurs, dans tous les clubs de foot, que ce soit au niveau amateur ou professionnel... c'est la confiance. Quand on marque des buts, après on tente, on peut tenter n'importe quoi et ça réussit. Et au contraire, quand on n'a pas la réussite, quand on n'a pas la confiance, eh ben on peut tenter tout ce qu'on veut et ça va pas au fond. Et voilà, c'est ce qui fuit les attaquants stéphanois. Et il suffit d'une étincelle, d'un match comme à Bordeaux par exemple, où tout nous réussissait pour que ça reparte. Mais là, j'ai largement confiance et comme je dis, on est à 3 points du podium. Il ne faut pas enterrer la SSE trop vite et le calendrier qui arrive est favorable et les attaquants reprendront confiance, j'en suis certain.
Et quelques minutes plus tard, après l'occasion de Néal Mopé, c'est Kevin Monépaquet, un autre attaquant qui manque une occasion en or face à Letellier. L'ancien Lensois se précipite un petit peu trop et écrase totalement son tir. Il a bouffé la feuille, il faut le dire. Est-ce un manque de confiance, d'implication, de justesse ?
Oui, c'était sur une passe en retrait. Je sens qu'il arrive à. Il veut peut-être aller. Il voit peut-être pas le défenseur qui est derrière lui. Et il se dépêche peut-être, à mon goût, trop vite à tirer. Il aurait peut-être eu le temps de contrôler et pourquoi pas provoquer une faute dans la surface. Voilà. Et
c'est quand même assez incroyable de voir Kevin Monépaquet rater ce genre d'occasion. Il y a quelques mois, on se disait il est en doute. Voilà. Aujourd'hui, on peut se poser quand même la question. Peut-être est-il à bout physiquement, mais. En même temps, ça paraît quand même bizarre.
Bah, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de matchs. Je crois que c'est un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier. Donc, est-ce qu'il a besoin un petit peu de souffler ? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est des professionnels, mais c'est vrai que l'action qui rate, elle paraît facile. Mais
c'est son seul tir cadré du match.
Oui, ça va très vite. Il ne regarde pas les cages au moment où il se retourne. Il ne s'attend déjà pas à avoir le ballon. Il voit que c'est une passe en retrait difficile. Il se projette vite, peut-être qu'ils pensent que le gardien est le plus avancé ou... C'est pas évident, ça va vraiment vite.
Et cette occasion, il la regrette, l'ancien Lensois, on va l'écouter tout de suite.
Il y avait moyen de faire mieux, mais comme je l'ai dit, prendre un point ici, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas si mal. On restait sur trois défaites consécutives, fallait qu'on stoppe ça. J'ai ma part de responsabilité ce soir, je l'avoue, parce que j'ai mangé un peu la feuille en première mi-temps sur une des seules actions que j'ai eues du match. Après, voilà, je l'ai dit, si c'est pas une fatigue, c'est pas une excuse la fatigue, mais... C'est le dernier match d'une série qui a commencé il y a un mois. On a fait beaucoup, beaucoup de matchs. Il y a eu beaucoup de joueurs absents. Donc, on a joué avec pas mal les mêmes joueurs et ça a commencé à se ressentir. Et là, comme je l'ai dit juste avant, quand on aura des semaines entières pour préparer les matchs, je pense que ça ira mieux. On va retrouver des joueurs qui vont venir blessures ou de maladies qui vont nous faire beaucoup de bien pour la fin de saison. Et on est encore placé, il ne faut pas lâcher. Et puis, faut travailler, se remettre en question. Moi le premier, et voilà, moi je savais que je n'ai pas fait un bon match. Mais bon, ça arrive et il faut que j'en trouve de la caisse. Je vais me reposer et me retravailler pour partir vers la fin de saison.
Voilà, Monet Paquet qui explique son occasion manquée par un manque de caisse, un manque de jus, un manque d'énergie. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est audible un tel argument?
Ben, c'est difficile à comprendre pour nous qui sommes supporters et qui jouons une fois par semaine et... On a l'impression qu'ils sont trop payés, que ce sont des pros et qu'ils peuvent enchaîner les matchs. Mais bien sûr qu'il y a une fatigue. Là, c'est le 44e ou 45e match de suite. Le 11e en un mois, oui, il a raison. Bien sûr qu'il manque un peu de jus. Et ça joue dans le mental, dans la décision devant le but. Et voilà, quoi, ça s'explique comme ça.
Alors, on a parlé de Mopé, on a parlé de Monet Paquet. Sur ce match, les deux attaquants ont raté des buts tout faits. Ça peut coûter cher quand même au soir de la 38e journée à la SS.
Oui, bien sûr, on est en train de perdre des points trop facilement. Encore qu'à Angers, personnellement, je pense que c'est un bon point quand même. Mais quand on voit les points perdus contre Monaco et surtout à Marseille, où à Marseille, ça fait 36 ans qu'on n'a pas gagné là-bas, qu'on finit par une passe à 10 en rendant le ballon à l'adversaire et qu'on se fait égaliser. Là, c'est vraiment deux points de perdu. Ces deux points, ils vont coûter cher à la fin.
Malgré tout, faut-il être confiant pour la suite du championnat? Le calendrier paraît quand même favorable si l'on accepte peut-être les deux dernières journées contre Nice et contre Lille.
Oui, bien sûr. Je crois que sur les six premiers du classement, on est septième, nous. On a le calendrier le plus facile. On a joué tous les gros. Mmh. Il reste la confrontation directe contre Nice, la 37e journée, en espérant que... Pourquoi pas, on est déjà quelques points d'avance sur Nice. Et la dernière journée peut-être contre Lille où Antonetti sera content de venir embêter les Stéphanois. Mais non, pour moi, c'est largement jouable. On a encore le temps de finir au moins quatrième. Et troisième, ce sera dur parce que je crois que l'Olympique Lyonnais va aller chercher la deuxième place. Monaco va essayer de conserver sa troisième. Mais voilà, quatrième, je pense qu'on a le potentiel, l'effectif, le potentiel et le calendrier pour terminer quatrième.
Le réalisme, c'est ce qui manque aux hommes de Christophe Galtier pour essayer d'aller accrocher une quatrième place, par exemple. Ça s'est encore vérifié contre Paris cette semaine en Coupe de France lors des quarts de finale. Et un match durant lequel le frère de Paul Pogba, Florentin, s'est signalé, et pas pour de bonnes raisons. La radio. Mercredi soir, la SS a tenu tête au Paris Saint-Germain en Coupe de France, mais s'est logiquement incliné. Au final, 3 buts à 1, but de Cavani, Marquinhos et Lucas. Estric avait réduit le score entre-temps sur penalty avant la mi-temps. Encore une fois, les Stéphanois ont pêché dans l'efficacité.
Oui, on s'attendait pas à... On espérait tous un petit miracle contre les Parisiens, mais sachant qu'ils avaient perdu à Lyon sans jouer dimanche soir, il fallait s'attendre à une révolte. Et bien sûr, pour eux, le match le plus important était la Coupe de France par rapport... à Lyon. Et donc, bien sûr, on savait que ça allait être très dur que Paris puisse perdre deux matchs de suite. Mais enfin bon, malgré le premier quart d'heure complètement raté suite à l'erreur de Pogba sur l'alignement du hors-jeu qui coûte le premier but. Après le deuxième but, il est encore mal placé. Après, à partir de la deuxième mi-temps était bien meilleure suite au penalty transformé juste avant la mi-temps. Et je crois que la deuxième mi-temps, Paris commençait à baisser le pied. Et c'est là que, si on arrivait à égaliser autour de la 70e minute, peut-être que l'exploit aurait été possible, parce que je pense pas que les Parisiens auraient été trop contents de faire une prolongation.
C'est sûr.
Nous non plus d'ailleurs, mais...
Surtout avant Chelsea, le Paris Saint-Germain, qui jouait petit bras, cette rencontre était... aurait certainement accusé le coup.
Oui, voilà, exactement, et... On pensait fort que, personnellement, je pensais fort qu'on allait égaliser après la 70e minute où ça commençait à bien pousser. Et malheureusement, bah, le dernier but anecdotique sera un contre de Lucas. Mais voilà, faut pas être déçu de perdre contre Paris. Hein. Ça fait déjà 2 ans qu'ils nous éliminent de toutes les coupes. Mais voilà, c'est dommage. Mais d'un côté, ça fait souffler les joueurs. Mais c'est vrai que si on était passé, après, il aurait fallu gagner à Lorient, ça aurait pas été facile, mais voilà, la Coupe de France nous tendait peut-être les bras.
Alors, fort du retour de Loïc Perrin, Christophe Galtier avait renforcé sa défense, avait mis en place une défense à 5, Perrin, Bayalsal et Florentin Pogba. Mais on peut se demander à quoi ça a servi au final, puisque Florentin Pogba, qui est le frère aîné de Paul, on le rappelle au passage, a commis de nombreuses erreurs. Son mauvais alignement entraîne l'ouverture du score d'Edinson Cavani à la 12e minute. Florentin Pogba accumule les erreurs ces derniers temps. C'est grave, docteur ?
Disons que oui, c'est grave. De toute façon, Pogba, il n'a pas le niveau de la Ligue 1, il faut bien se le dire. Si Perrin n'est pas blessé, Pogba ne jouerait jamais, ou très peu. Et voilà, c'est tout simplement ça. Après, ça se ressent aussi de voir Pogba et Bayalsal. Bayal ne joue pas de la même façon avec Perrin qu'avec Pogba. Avec Perrin, c'est Perrin le patron. Bayal ne fait que son boulot et il joue bien mieux. Tandis qu'avec Pogba, on a l'impression qu'il se met une pression de leader de la charnière centrale. Et voilà, et du fait, Bayal, des fois, on voit qu'il est moins en réussite avec Pogba qu'avec Perrin. Donc le seul souci, c'est les blessures de Loïc Perrin. C'est dommage parce que si Perrin était là, on aurait gagné beaucoup plus de points en championnat. Et peut-être pas gagné à Bâle ni contre Paris. Mais voilà, le cas Pogba, même si par moments il fait des bons matchs, il fait quand même beaucoup d'erreurs, surtout en ce moment. Et est-ce qu'il est un petit peu cuit aussi? Il devait peut-être pas s'attendre à jouer autant aussi. Oui. Et voilà, mais...
Pourtant, il le demandait. Hein. À une période, il le demandait.
Oui, voilà, mais qu'il fasse ses preuves. Sur le terrain, il ne les fait pas et il fait des erreurs qui coûtent très cher. Et voilà, donc il rêve de jouer dans des grands clubs, mais voilà, s'il n'est pas capable de s'imposer à Saint-Etienne, il aura du mal à jouer dans un grand club, comme
son
frère.
Ce qui est assez... c'est sûr. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand il joue avec Loïc Perrin, il est plutôt intéressant, mais avec Bayalsal, il y a un problème.
Oui, voilà, je le dis, parce que Bayalsal, il prend peut-être le rôle de leader et il communique peut-être moins facilement, et voilà, il fait plus de bêtises. Après, Perrin Pogba, on l'a peut-être pas trop vu cette année, le duo, mais c'est sûr que Loïc Perrin, c'est le leader, c'est le libéro incontesté
de
l'SS, oui. Mais quand Pogba prend sa place avec Bayal, c'est vrai qu'il y a des soucis.
Pas complémentaire.
Justement, pas complémentaire, ils ont plus. Bayal et Pogba, ils se ressemblent beaucoup sur leur jeu. Et en fait. La meilleure solution est peut-être justement de mettre Théophile Catherine avec
Bayalsal.
Avec Bayalsal ou Luc Perrin et non pas Pogba.
Et Christophe Galtier n'avait pas mâché ses mots à la fin de la partie au micro d'Eurosport. Cette défaite laisse des regrets, c'est dommage. Ce terme d'ailleurs devient agaçant. On était tout proche de réussir des choses. On les pousse dans leur retranchement, mais ils arrivent toujours à nous battre. Avec peu d'occasions, ils nous ont mis 3 buts. On n'a pas le niveau pour les battre, a déclaré Christophe Galtier. Il est plutôt lucide. Mais que manque-t-il aujourd'hui au vert concrètement pour arriver à se hisser au niveau du Paris Saint-Germain et à rééditer le genre d'exploit qu'il pouvait réaliser, par exemple, au temps d'Aubameyang et Brandao?
Il manque beaucoup de millions, je crois, pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain.
Et en termes de jeu?
En termes de jeu, sur un match, bien sûr, on peut les battre. La preuve, Lyon l'a réussi, même si à Lyon, pour moi, Paris n'a pas joué du tout. Mais bien sûr, sur un match, mais à l'époque, Aubameyang, c'est pas monnaie paquet. Hein. Aubameyang, il n'a pas besoin de 15 ballons pour marquer un but. Brandao aussi, il nous manque parce que Brandao, même s'il est beaucoup critiqué, c'est un super joueur en numéro 9 qui a usé beaucoup les défenses. Et donc voilà, on n'a pas la même équipe que lorsqu'on a gagné la Coupe de la Ligue, même si on s'est renforcé en quantité, en nombre de joueurs, en effectif, mais niveau de la qualité, c'est sûr quand on perd Brandao, Aubameyang, et bien sûr, ça fait mal.
Et on évoque souvent le déchet d'Edinson Cavani dans la finition, mais l'Uruguayen fait habituellement souffrir les défenses avec ses appels. D'ailleurs, Florentin Pogba, il en a pâti puisqu'il n'a eu de cesse de se faire piéger. Il n'est pas bien aligné sur le premier but parisien marqué par Cavani, justement. Cavani, c'est un poison. C'est une plaie de jouer contre un joueur comme ça.
Cavani, c'est un super joueur. C'est un battant qui, de la première à la dernière minute, il va les défendre, il va attaquer et il ne sera pas fatigué. Quoi. Alors bien sûr qu'à Paris, beaucoup le critiquent parce qu'il marque pas assez de buts, mais t'as le n'importe où ailleurs qu'à Paris, il serait peut-être meilleur buteur du championnat.
C'est sûr. Et aujourd'hui, c'est Zlatan Ibrahimovic avec 23 réalisations. D'ailleurs, Zlatan, Ferrara n'a pas marqué face à l'AS Saint-Etienne, mais il a une fois de plus répondu présent. Il est à la baguette sur les deux premiers buts de son équipe. Et quand Zlatan ne marque pas, Zlatan distille. Paris avec Zlatan et Cavani, c'est autre chose quand même. On les a souvent opposés les deux, mais au final, on voit la différence.
Oui, et puis ils sont capables de jouer tous les deux ensemble. Après, ils ont un petit peu le même registre, mais Cavani est peut-être plus à l'attente du but, tandis que Ibra, lui, a l'intelligence d'aller chercher le ballon, de se positionner, et puis de... Ibra, il peut frapper de 35 mètres ou de 10 mètres, ça sera toujours cadré, quoi. Tandis que Cavani a plus de mal dans la précision en face le but. Mais c'est deux super joueurs, et même si c'est dur de les mettre tous les deux sur le terrain, puisque bien sûr, ça laisse un poste vacant que pourrait avoir Pastore ou Lucas, mais ils peuvent faire très mal tous les deux, et à mon avis, à Chelsea, on a des chances de les voir tous les deux sur le terrain dès le coup d'envoi.
Et je vais revenir un peu sur la prestation des Verts. Il a fallu quand même attendre la 35e minute et le break de Marquinhos avec ce but un peu raccro pour voir une remobilisation collective de l'ASS qui avait pourtant mis un peu la pression sur les Parisiens en début de match. Puis après, ils se sont un peu liquéfiés. Le but de Cavani leur a mis un coup sur la tête. Ils ont baissé trop vite les bras. C'est quoi? C'est un complexe d'infériorité?
À mon avis, ils ne pensaient pas se prendre un but aussi rapidement. C'est vrai que nous non plus. Sur quasi la première action parisienne sur le mauvais alignement, Cavani va battre Ruffier. Et à mon avis, ça a mis un gros coup au moral aux Stéphanois, parce que non seulement il faut arriver à égaliser, puis ensuite reprendre l'avantage. Déjà à ce moment-là, on pensait peut-être déjà aux prolongations, à 20 minutes 1-0. Et après, le deuxième but arrive rapidement. Heureusement, c'est un petit peu réveillé les Stéphanois qui se sont peut-être dit 2-0, on n'a plus rien à perdre, on va lâcher les gaz. Et c'est là que des joueurs comme Malcuit, qui était... que j'ai trouvé super fort encore une fois. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il ne joue pas plus souvent.
Problème d'entourage, a priori.
Ouais, je sais pas, mais c'est vraiment dommage parce que c'est un super joueur. Et c'est lui qui a provoqué, qui est donc avec ce penalty, qui a tout relancé. Et on a vu un Saint-Etienne conquérant en deuxième mi-temps et qui aurait pu embêter Paris jusqu'au bout. Et c'est vraiment dommage d'avoir raté justement ces 20 premières minutes et qui ont sûrement mis un coup derrière la tête aux Stéphanois qui s'attendaient peut-être pas à encaisser un but aussi rapidement.
Il est 20h33 sur RVR, tout de suite on va parler de l'AS Villers avec Sylvain Poyer, le président chargé du sportif du club.
L'expresso de la mi-temps verte sur RVR.
Sylvain Poyer, vous êtes notre invité dans la mi-temps verte. Depuis combien de temps vous êtes dirigeant à l'AS Villers?
Ouais, dirigeant, ça fait peut-être 12 à 15 ans. Dirigeant, après bien sûr j'ai joué depuis l'âge de 10 ans jusqu'à pas longtemps. Mais dirigeant, oui, bien sûr, j'ai entraîné les équipes U13, U15, U9, U7, les seniors aussi, pendant une année. Et donc oui, j'ai une licence dirigeant depuis 15 ans et président tout seul pendant 3 ans. Et là, en coprésidence avec Pascal Montibert, qui s'occupe plus seul de l'associatif et moi du sportif depuis 2 ans.
Et vous êtes d'ailleurs épaulé par Guillaume Charvier, qui est vice-président. Oui. Il n'est pas loin de vous. Cette structure bicéphale est-elle indispensable justement pour la bonne vie de l'AS Villers?
Disons que au bout de 3 ans en président, j'avais perdu pas mal d'énergie à faire beaucoup de choses et il fallait qu'on change quelque chose, une nouvelle organisation. Et en fait, on a décidé de faire différentes tâches, des commissions, pour essayer d'impliquer plus de personnes et pour qu'on ait moins de boulot en tant que président ou co-président. Et ça fonctionne plutôt bien depuis 2 ans. Donc on a une commission festivité, une commission terrain, une commission plutôt sportive. Et donc ouais, on a trouvé un bon fonctionnement. Et voilà, moi je m'occupe principalement que du sportif, et Pascal Montibert est chargé plutôt de l'associatif, c'est-à-dire les festivités, le secrétariat, tout ce qui est commission, buvette, etc. Et donc ça dégage pas mal de choses, et donc on réagit plus vite et on travaille plus sereinement.
J'ai ouï dire que vous seriez enclin à stopper votre activité de président ?
Oui, ça fait déjà 5 ans et donc il est temps de mettre un petit peu de sang neuf à la tête. Non pas que ça se passe mal, au contraire, mais voilà, pour que le club toujours aille de l'avant, et c'est bien qu'il y ait du sang neuf qui arrive pour des nouvelles idées, pour des nouveaux projets.
Certaines personnes se sont déclarées ?
Pour l'instant, mais j'ai bon espoir.
L'AS Villers fête cette année ses 42 ans d'existence. Où en est le club d'un point de vue global ?
Eh bien, écoutez, le club se porte plutôt bien. On compte plus de 138 licenciés au club de Villers, qui compte 550 habitants. Donc, ce qui fait de nous la plus grosse association du village et certainement une des plus grosses du canton de Charlieu. Au niveau sportif, il faut savoir que l'AS Villers n'est pas en fusion. Donc, nous sommes l'un des derniers clubs du Rouennais à rester tout seul. Maintenant, il y a beaucoup d'ententes à côté de nous, Loire-Sornin, Golf Foot ou plein d'autres. Et donc, nous faisons encore l'espoir de rester tout seul. Et ça, c'est déjà super bien.
Pourquoi justement ? Parce qu'il y a eu quelques équipes au sein même du club qui ont eu des soucis d'effectifs.
Oui, il faut savoir qu'on est en entente quand même en trois catégories, en U13, U15, U17 avec le club voisin de Saint-Denis-de-Cabanes. Mais ça depuis plus de 15 ans. Et voilà, Saint-Denis-de-Cabanes reste, défend son clocher, nous on défend le nôtre, ça se passe super bien comme ça. Et voilà, je trouve que c'est bien qu'un club arrive à voir encore son nom de village en haut de l'affiche. Là, je suis juste de la délégation et la carte finale de la Coupe du Rouennais qui sont tirées. On est le plus petit village qui reste. Et voilà, c'est pas des ententes.
Vous allez jouer contre eux ?
On va recevoir Rouen Clermont pour le week-end de Pâques. Donc on a tiré la tête de série. On n'a pas eu bien de chance au tirage. Mais enfin voilà.
Gros match à venir.
On défendra nos couleurs comme il se doit. Et je fais confiance à tous les joueurs qui sont impatients de jouer.
Et l'équipe 1 va... dispute une saison intéressante avec, en deuxième division de district avec une cinquième place, si je ne m'abuse.
Oui.
L'équipe pointe à 6 petites longueurs de la troisième place et il reste 10 journées. Alors, j'ai presque envie de vous poser la question, peut-elle nourrir des ambitions encore plus élevées ?
En Ligue des Champions ? Non, ça marche pas.
Non, mais la montée, par exemple ?
Non, la montée, pour cette année, ça sera très dur parce qu'il y a des grosses équipes. Il y a l'AS Parc, Mayotte, Riorges 2... C'est vraiment trois gros calibres, mais juste derrière eux, nous sommes là, parce que on doit être quatrième vu qu'on n'a pas joué hier. On a dû descendre la cinquième place, mais voilà, l'année dernière, on a fini cinquième. On a perdu pas mal d'éléments en cours de saison estivale, et donc on pensait que ça allait être plus dur, mais si les débuts ont été difficiles, maintenant on pointe à la quatrième place, les joueurs font un super parcours. Et voilà, non, mais plus haut... Bien sûr qu'on en rêverait tous, mais ça serait très dur en première série. Et pour l'instant, si on arrivait à quatrième et pourquoi pas passer encore un tour de coupe ou plus, ça serait une très belle saison.
Alors, il n'y a plus d'équipe réserve. Et déjà il y a 10 ans, c'était borderline. Je me souviens, on va le dire aux auditeurs, j'étais à l'AS Villers il y a 10 ans et celle-ci arrivait à se construire par la volonté de certains. On avait quand même des difficultés, je me souviens, à aligner 12 joueurs sur la feuille. Et là, il n'y a vraiment plus d'équipe réserve, il n'y a même pas d'entente ?
Non, il n'y a pas d'entente en senior, il n'y a plus d'équipe réserve depuis 3 ans. Après, voilà, ça devenait dur d'avoir une équipe réserve au complet. Et donc voilà, il faut savoir qu'on est quand même un tout petit club. Et... D'avoir deux équipes, c'était bien, et puis non, là, c'était trop dur. Malgré la volonté de certains de vouloir jouer, mais pour avoir deux équipes seniors, il faut être plus de 40 joueurs en tout sur une saison. Là, nous sommes 26-27, donc il manque 13 joueurs, c'est trop pour pouvoir faire une deuxième équipe.
Et chez les U17, il y a une entente, puisque Villers ne figure pas seul dans le classement. Vous avez compris quand l'utilité d'une entente justement pour vos jeunes ?
Oh, ça fait longtemps qu'on en entend, plus de 15 ans avec Saint-Denis-de-Cabanes. On est avec Saint-Denis-de-Cabanes et Charlieu. Charlieu s'est retiré et nous sommes plus qu'avec Saint-Denis depuis, oui, maintenant bientôt 10 ans.
Pourquoi Charlieu s'est retiré ?
Oh, ça c'est pour des raisons extra-sportives.
D'accord, qui n'appartiennent qu'à eux.
Oui, que je ne connais pas trop, qui n'appartiennent qu'à eux, oui. Et donc voilà, ça se passe très bien avec Stanley de Cabane. Et voilà, en U13, U15, U17, nous sommes avec eux. Et voilà, alors les U17 ont le nom de Stanley de Cabane parce qu'ils sont un peu plus nombreux que nous. Et en U15, U13, les deux équipes s'appellent Villers parce qu'au contraire, on a un peu plus de jeunes. Et voilà, mais même à deux clubs, il est difficile d'avoir une vingtaine de joueurs en U17, voire U15. Donc, c'est bien évidemment utile d'être en entente avec Saint-Denis. Et ensuite, les joueurs repartent dans leur club pour évoluer en senior, sachant qu'on n'a pas d'équipe U19.
Quel est le projet de l'AS Villers aujourd'hui ?
Bah, le projet de l'AS Villers, à court terme, c'est de continuer à avoir une bande de copains au niveau senior, parce que c'est vraiment une bande de copains. Et puis au niveau de club, on a la chance sur les 138 licenciés d'avoir plus de 80 jeunes qui ont moins de 17 ans. C'est énorme, ça regroupe tous les petits villages qui sont autour de Villers. Et donc on a 5 équipes en foot d'animation, U7, U9, U11, ça fait plus de 60 gamins. Et ensuite, donc on a les U13. Et voilà, 80 jeunes de moins de 17 ans, c'est pour un petit village comme nous, c'est une richesse. Les enfants sont heureux de jouer pour Villers. Et nous, notre politique, ce n'est pas d'aller... même si, bien sûr, on aimerait gagner beaucoup de matchs, tout ça, mais c'est la convivialité et le fait que tout le monde puisse jouer à Villers. Et voilà, c'est bien essentiel et tout le monde le comprend.
Alors, en tant que président aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez faire passer aux jeunes pour qu'ils restent un maximum dans leurs équipes et s'entendent bien avec tout le monde et se comportent bien sur les terrains surtout?
Eh bien, de prendre le sport pour un loisir, pour un défouloir. C'est le sport, c'est le meilleur moyen de se faire des copains en plus. Tous les copains qu'on se fait quand on a de 15 ans à 20 ans, on se les fait généralement soit à l'école ou soit au sport, au foot notamment. Et voilà, et le principal, c'est de se retrouver le samedi après-midi, le samedi matin ou le dimanche, de mettre les crampons et de courir après le ballon sur un terrain en essayant de gagner. Bien évidemment, c'est mieux. Voilà, c'est ce que je dirais aux jeunes, mais ça, on n'a pas besoin de leur dire, ils le comprennent bien. Et plus globalement, à l'AS Villers, c'est de continuer à serrer les coudes. Tous les seniors, tous les dirigeants, essayer d'amener du monde, parce que bien évidemment, le bénévolat est en train de s'essouffler un peu de partout, à Villers bien sûr, évidemment. Aussi, et donc c'est pour ça que je lance un appel à tous ceux qui veulent venir nous aider pour encadrer les jeunes, pour faire du bénévolat, et on manque bien évidemment de... C'est la galère toutes les fins de saison pour préparer les saisons prochaines, pour trouver du monde, pour s'occuper des jeunes. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent venir nous aider seront les bienvenues.
Et je vais encore vous parler en tant que président, donc forcément... Vous encadrez des jeunes, vous les côtoyez, vous avez été entraîneur, éducateur. Quand vous voyez des dérapages comme celui de Serge Aurier, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux jeunes ?
Ah bah d'aller sur Twitter, non, ou sur Periscope, je sais plus quoi.
Periscope.
Ça maintenant, les réseaux sociaux, on peut pas y faire grand-chose à notre niveau. Après, ce que je leur dis, c'est lâcher les portables, lâcher les tablettes, et puis venez vous changer, venez courir après le ballon, et c'est bien mieux.
Alors la saga Serge Aurier se poursuit, et après l'affaire du Periscope Gate, justement, l'Ivoirien divise toujours, y compris à Saint-Etienne, où Benoît Assouécoto a cru bon ressortir les dossiers. Nous, dans la mi-temps verte, ça nous a fait réagir. Voici l'Actu Ligue. Il y a 3 semaines, Serge Aurier dérapait dans un chat public via l'application Periscope sur Twitter. Laurent Blanc et une partie de ses coéquipiers sont passés sur le grill. Depuis, les esprits se sont déchaînés contre le défenseur latéral ivoirien, le PSG à Séville. L'ancien Lensois et Toulousain a été mis à pied à titre conservatoire, puis il va être réintégré dans quelques semaines. Est-ce que déjà, c'est une bonne chose pour l'éthique ?
Qu'il soit réintégré ? Oui, après tout le monde a droit à faire une erreur. Le problème, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de partout. Et bien sûr, ils s'attaquent à n'importe qui peut devenir célèbre ou qui l'est, entre guillemets. Et là, oui, Serge Aurier, il a fait une grosse bêtise. Je pense qu'il la fera pas. Et puis voilà, mais après, ils peuvent plus rien. Les joueurs pros sont filmés de tous les côtés. Dès qu'ils prennent un téléphone, limite on sait à qui ils écrivent. Mmh. Ils sont obligés de se mettre la main devant la bouche pour parler à leur gardien, pour savoir où tirer à coup franc. On vit dans une société où il n'y a plus que ça qui fonctionne. Les réseaux sociaux, les médias, pour vendre du papier ou vendre des informations. Et voilà, et là, il s'est fait piéger. Et voilà, et Assou et Koto, ce qu'il dit sur...
Bah justement, on va en parler. Assou et Koto, du côté de Saint-Etienne, cette affaire a fait écho. On a eu les propos de Christophe Galtier. Serge Aurier, un soutien de poids, l'ancien Lensois Benoît Assou et Koto. Si Aurier avait dit « il n'y a pas assez de joueurs de couleur au Paris Saint-Germain », je pense que ça aurait fait un très grand scandale. Mais il y a bien des éducateurs en France qui se sont retrouvés dans ce scandale à parler de gens de couleur. À l'époque, on les a excusés et on les a pardonnés. Donc on peut aussi pardonner à Aurier. Il y a un jugement à deux vitesses, c'est ce qu'il a déclaré à l'équipe.
Oui, bien sûr, il parlait. Est-ce que c'était juste avant le match de Paris? Alors, est-ce qu'il voulait peut-être mettre une petite pression à Laurent Blanc? C'est possible, mais les médias n'ont pas trop fait écho à ce moment-là. Oh, à mon avis, c'est qu'il a voulu peut-être défendre Serge Aurier, qu'il connaît peut-être d'avant. Et voilà, après, pour parler des quotas, c'est pas un sujet que je maîtrise bien, mais à mon avis, il a plutôt voulu démontrer que oui, que Laurent Blanc aussi a fait des erreurs. Mmh. Mais vu qu'il était sélectionneur, bien sûr, c'était plus facilement
répréhensible.
Répréhensible, et ouais, et puis non médiatisé comme ça l'a pu être, c'est peut-être plus c'était étouffé, il s'y excusait, puis voilà, tandis que Serge Aurier, il a beau avoir s'y excusé.
Ça a été médiatisé, attention, parce que Laurent Blanc bon, est clairement visé, hein, tout le monde l'a compris. Assou et Koto fait référence à l'affaire des quotas dans le monde du football. A-t-il raison, déjà, Assou et Koto, de ressortir ce vieux dossier, alors que Blanc s'était excusé?
Oui, je répète, c'est parce que justement, il y avait peut-être ce quart de finale de coupe. Est-ce qu'il a peut-être voulu mettre un peu l'huile sur le feu, mais ça n'a pas marché. Mais après, je pense pas qu'il voulait parler plus des quotas, peut-être plus parler de Serge Aurier, que Laurent Blanc avait fait des erreurs aussi et qu'il fallait qu'il l'excuse, voilà tout. Je pense que... Et puis, de toute façon, Serge Aurier, on le reverra vite sur les terrains et puis on voit qu'il leur fait défaut.
Alors, pour rappel, on va rappeler quand même que cette affaire des quotas a éclaté en 2011 lorsque Blanc était sélectionneur de l'équipe de France et lors d'une réunion de travail à la Fédération Française de Football, il aurait évoqué les problèmes de sélection de jeunes footballeurs. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud, puissant? Les Blacks, il faut recentrer, avoir d'autres critères. Il aurait étayé ses propos pour argument des discussion avec ses homologues entraîneurs ibériques. On n'a pas de problème, nous les Blacks, on n'en a pas, aurait dit ses homologues ibériques à Laurent Blanc. De là est parti tout un débat sur les binationaux dans le football, sur les sélections de ces binationaux. Faut-il limiter l'entrée des binationaux dans les centres de formation? C'était un peu la problématique de l'époque. Mediapart avait balancé ces infos, ce qui avait provoqué vraiment un tollé général. On avait même, enfin, certaines têtes pensantes avaient réclamé la démission de Laurent Blanc à l'époque où il était sélectionneur de l'équipe de France. Ça avait créé même un malaise au sein de l'association France 98. Blanc s'est excusé depuis, il a fait son mea culpa. Alors Sylvain Poyet, quelle est votre position, vous, à ce sujet?
Oui, mais dans le monde amateur, on n'en est pas à parler de quota ou quelque chose, et ça c'est un sujet que je maîtrise pas trop du tout. Après, est-ce que ces quotas ont vraiment existé dans le monde professionnel? Ça se peut, mais non, dans le monde amateur on en est encore loin, et heureusement.
Ouais, on va quand même le préciser que ces propos sont sortis dans la presse, parce qu'il y a eu des écoutes qui ont été ensuite balancées. Voilà, l'information est ce qu'elle est, mais peut remettre en cause peut-être certaines pratiques, on va dire. La sortie d'Assou et Koto, en tout cas, vient-elle fragiliser Laurent Blanc?
Non, je pense pas. De toute façon, pour attaquer le PSG au niveau des... pas que Laurent Blanc, mais attaquer le PSG au niveau des médias ou n'importe comment, c'est très dur, hein, quand on voit que les ultras stéphanois avaient sorti des banderoles contre le QSG lors du match de Paris et qu'on se retrouve avec 25 000 euros d'amende. Alors, où est la liberté d'expression? Où est passé le monde de Charlie, comme l'ont écrit les Magic Fans à Angers? Voilà, ça c'est plutôt un débat plus intéressant que celui des quotas. Et...
Le QSG, c'est le Qatar Saint-Germain, le sobriquet balancé par beaucoup de monde à l'égard du Paris Saint-Germain.
Et les banderoles du Cop Nord n'avaient aucun moment, non insultant, aucun moment personne. Et voilà, le club se retrouve avec 25 000 euros d'amende. Ça, c'est ça qu'il faut en parler et que c'est injuste. Et voilà, où est donc la liberté d'expression? Et voilà, point barre.
Et cette affaire est utilisé dans un grand média pour défendre Serge Aurier, mais c'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité quelque part? Parce que on se souvient qu'Assou Ekoto, lui aussi, n'est pas tout blanc, si on peut passer l'expression, si on peut nous permettre l'expression, dans cette affaire. Il avait effectué la quenelle quand il était à Tottenham pour défendre Nicolas Anelka, qui avait été suspendu 5 matchs pour avoir effectué ce geste qui a, pour certains, à connotation antisémite.
Oui, bah ça, j'étais pas trop au courant de l'histoire, mais non, je sais pas, il a peut-être voulu titiller, vu qu'Assou Ekoto, c'est aussi un joueur de couleur, et voilà, peut-être que c'était... Il avait peut-être envie de parler, de laisser passer un message à Laurent Blanc et à tout le monde, et il en a profité à ce moment-là, et puis voilà tout. Après, je pense pas que ça aille bien plus loin que ça.
Et cette affaire peut-elle ressortir prochainement avec une connotation politico-sociale? Parce qu'on a parlé des quotas il y a 4 ans, mais ça peut ressortir.
Oh non, je pense pas. Là, il va voir l'euro qui va arriver, tout va s'étouffer. Non, je pense que l'histoire est vraiment terminée.
Ce contexte, il fait peur en tout cas, et les hommes de Christophe Galtier devront l'exiler, cette peur, à Guingamp, à 20h, même s'il ne joue pas en rouge et noir, comme dirait Jeanne Masse.
Rouge et noir.
Samedi à 20h, la Saint-Etienne s'en va défier l'en avant Guingamp au Roudourou. Les hommes de Jocelyn Gourvennec sont actuellement à la peine en championnat. Ils n'ont plus gagné depuis le 3 février dernier. C'était contre Bastia, 4-0. Et depuis, Jonas est un peu le seul au monde, puisqu'il a encaissé 15 buts en 5 matchs. Jonas le seul, c'est le gardien danois de cette équipe guingampaise. 15 buts en 5 matchs pour Guingamp, c'est énorme. Alors qu'il lutte pour le maintien.
Oui, donc c'est énorme et c'est pas trop le moment d'y aller parce qu'ils vont vouloir mettre les points sur les i rapidement. Et oui, peut-être qu'on pensait qu'à un moment Guingamp allait réussir à se sauver plus facilement. Et quand on voit que le Gazélec a refait surface il y a quelques matchs et reprend espoir, ils sont plus qu'à 3 points derrière Guingamp. Donc est-ce que les Guingampais sont peut-être cru sauvés trop tôt dans la saison, à mi-championnat? Et voilà, ça revient fort derrière, enfin surtout le Gazélec, hein, surtout pour la 18e place. Et voilà, est-ce que c'est bon moment pour les Verts d'aller à Guingamp? De toute façon, il faut y aller. Et même si les Guingampais doivent avoir très mal à la tête suite à leur défaite à Lyon dimanche 5-1, et bien justement, c'est le moment de les enfoncer un petit peu. Et ils ont des soucis, hein, ils ont des soucis de défense, alors... Ils vont surtout travailler la défense cette semaine et essayer de pas de prendre de buts. Malheureusement, nous, on n'en marque pas beaucoup. Donc, est-ce que ça va finir en 0-0? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut plus perdre trop de temps. Il faut essayer de gagner à Guingamp en espérant qu'ils ne relèvent pas la tête contre nous. Parce que malheureusement, Saint-Etienne, on a trop l'habitude souvent de relancer les équipes. Et là, j'espère qu'on aura à cœur de gagner. Mais j'espère aussi que Guingamp se sauvera parce que Guingamp, c'est un bon club.
Et Guingamp peut-il encore se maintenir, justement? Peut-il encore se sauver en ayant une aussi mauvaise défense? Oui. Encaisser 3 buts par match.
Oui, parce que c'est le nombre de points qui compte, c'est pas le goal average au final, sauf s'il y a égalité avec l'adversaire au jour de la fin du championnat, même nombre de points. Mais une équipe peut perdre une fois 5-0 et gagner 5-0, vaut mieux gagner les 5-0, hein, donc le goal average, ça importe peu. Après, ils ont les moyens de se sortir d'affaires, surtout chez eux, parce que le stade sera plein. À domicile, ils peuvent faire les pleins de matchs. Mais oui, ça va être chaud, parce que ça va jouer avec le Gazélec et puis 2-3 équipes devant. Donc, bien sûr qu'ils peuvent encore sauver. Après, il ne faut pas qu'ils commencent leur remontée dès samedi. Mais après.
Alors, contre Guingamp, l'AS Saint-Etienne devrait retrouver un ancien de la maison, Mevlut Erding. Est-ce que lui peut permettre à Guingamp, justement, de respirer?
Ouais, il ne aura pas marqué contre Saint-Etienne. Il aime bien marquer contre Lyon, il l'a fait dimanche soir. Mais j'espère qu'il ne marquera pas contre la SSE. Mais oui, c'est un bon attaquant. Il n'a pas fait de superbes saisons à Saint-Etienne. Mais voilà, c'est un attaquant qui peut marquer à tout moment. Il ne faudra pas lui laisser trop le ballon. Mais voilà, j'espère que le capitaine Loïc Perrin sera là. Et avec Bayal, ils vont s'en occuper. Ils le connaissent, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis.
En tout cas, c'est un match que devrait suivre avec attention Dylan Sagoun, qui est au centre de formation à Sochaux et qui a déjà rencontré l'attaquant guingampais, Mevlut Erding, c'est un peu son modèle, hein, Dylan Sagoun. Voilà, on lui passe le bonjour au passage s'il nous écoute sur rvrradio.fr depuis le Doubs. Et de son côté, l'ASS peut-elle encore aller de l'avant? On a vu de bonnes choses contre Angers, mais la faiblesse de l'adversaire ne peut pas vraiment nous permettre de tirer des grandes conclusions.
Bah, disons qu'il est plus facile de bien jouer contre des équipes qui jouent bien. Ça, c'est on le voit souvent. Après, concernant les Stéphanois, il suffit de deux victoires consécutives pour relancer la machine, pour faire un bon classement, c'est-à-dire gagner 2-3 places, aller sur l'objectif qui est 3e ou 4e, ou peut-être 2e. Mais il suffit de gagner deux victoires de suite pour que ça relance tout. Donc on sait que les Stéphanois sont impatients de lancer cette série. Et pourquoi pas la commencer à Guingamp, mais ils en sont capables. Quand on voit le calendrier qui est favorable pour nous jusqu'à la fin, c'est le moment d'enclencher le sprint, même si c'est encore long. Il reste 9 matchs, ça fait 27 points, c'est énorme. Pour moi, si la SSE arrive à, sur les 9 matchs qui restent, simplement gagner allez, 6 matchs, 5 ou 6 matchs, 2 ou 3 nuls et qu'une seule défaite, les objectifs seront atteints.
Et Mopé ou Soderlund, est-ce que Christophe Galtier doit continuer à faire confiance à Neal Mopé pour ce match?
Oui, mais pourquoi pas mettre Soderlund aussi
Les deux
Les deux, ça sera difficile, parce que quoique Neal Mopé peut très bien jouer juste derrière et tourner autour de Soderlund, mais je pense pas qu'il commence avec les deux. Non, mais pourquoi pas pendant 60 minutes faire jouer Soderlund pour qu'il appuie sur les défenseurs centraux, les fatigués, et ensuite Neal rentre et marque le but de la victoire, ça serait bien.
Et Galtier devrait retrouver un autre pilier offensif, c'est Anan. Il devrait normalement être tout frais pour ce match en Bretagne. Est-ce que c'est de bon augure pour l'attaque qui, pour l'instant, plafonne un peu?
Oui, j'ai un copain qui le comparait à Sinagel quand ses premiers matchs, là, il va se reconnaître. Tanan, c'est un super joueur qui nous fait du bien. Après, un peu comme Soderlund, il a commencé en fanfare. Il a commencé à Bordeaux, il marque tout de suite, il fait une passe, un peu comme Soderlund contre Lyon. Et là, bien sûr, après, il faut le temps d'adaptation, donc il a un petit peu peut-être baissé de régime. Et là, bien sûr, il n'a pas joué depuis 10 jours, il va revenir en forme et il aura à cœur de marquer pour dédier à son papa la victoire.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci Sylvain Poyer d'avoir répondu à notre invitation. Petite dédicace.
Oui, je passe le bonjour à mes enfants, Florian Alicien, c'est que ma femme Sandra, à tous les Villersois, licenciés des seniors qui m'écoutent peut-être, et aussi à la frange dure de la section USVVDS, notamment la grande Zaza, Nanus et notre meneur Zizou. Voilà.
Zizou, joli, joli surnom. Tout de suite, retrouvez vos programmes musicaux sur RVR et In the Mood for Jazz à 21h. La mi-temps verte revient la semaine prochaine. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 7h pour On se réveille en musique sur RVR. Salut à tout le peuple vert. Ciao, ciao, ciao. Salut Sylvain.
Merci Juju, à bientôt à tous.